Chapitre 2. Au bout d'un quart d'heure, leur crissement discret se fit de nouveau entendre, et Kili Lovna réapparut dans le boudoir, les traits tout aussi placides et le regard tout aussi narquois. « Eh bien, lui demanda sa maîtresse, que dit Hakim ?»« Oh, rien de particulier, il n'a pas d'autre volonté que la vôtre. Pourvu que madame soit heureuse et bien portante, c'est le principal qui dit. Quant à moi, j'ai de quoi vivre jusqu'à la fin de mes jours. » « Et il ne s'est pas plaint ?»« Bien sûr que non, pourquoi voulez-vous qu'il se plaigne ?»« Mais alors, pourquoi donc est-il venu ?» demanda Madame Kuntze, quelque peu surprise du tour que prenaient les choses. « Il était venu vous demander si, en attendant, vous ne voudriez pas l'exempter de sa redevance pour l'année prochaine, s'entend. » « Mais certainement, certainement, acquiesça d'emblée Elisabeth Prochorovna. « Avec grand plaisir, et dis-lui que je le dédommagerai. Oh, je te suis très obligée, ma chère. Mais c'est vu que cet Hakim est un brave homme. Allez, attends un peu, donne-lui cela de ma part. » Et elle tira de sa petite table de travail un billet de 3 roubles. « Bien, madame, » répondit Kirillovna. Et gagnant tranquillement sa chambrette, elle mit non moins tranquillement le billet dans une cassette qu'elle avait au pied de son lit. Elle y gardait tout son argent, et la somme était plutôt rondelette. En relatant son entretien avec Hakim, la fine mouche avait donné, dans la louable intention de tranquilliser sa maîtresse, quelques légers accrocs à la vérité. De fait, voici comment les choses s'étaient passées. Elle avait fait appeler Hakim dans la chambre des servantes. Après avoir refusé de s'y rendre et insisté pour voir la maîtresse en personne, il avait fini par céder et se laissa conduire par l'escalier de service auprès de Kirillovna qu'il trouva seul. À peine entré, il s'arrêta court, s'appuya à la muraille, ouvrit la bouche, mais ne put prononcer un traître mot. La femme de charge le regarda fixement. « Vous désirez voir madame, Hakim Semyovitch ?» commença-t-elle d'un ton patelin. Il ne put que faire un signe de tête. Oh, « Mais cela ne se peut pas, Hakim Semyovitch. Et d'ailleurs, à quoi bon la déranger? Ce qui est fait ne serait-ce défaire. Non, franchement, Hakim Semyovitch, madame ne peut pas vous recevoir. »« Elle ne peut pas ?» répéta-t-il comme hébété. « Alors comme ça ?» reprit-il après quelques instants de silence. « L'auberge est perdue pour moi ?»« Écoutez, Hakim Semyovitch, c'est la volonté de madame, et vous qui avez toujours été un homme de bon sens, vous savez bien que la volonté des maîtres, ce n'est pas nous qui pouvons la faire plier. Que nous discutions ensemble là-dessus, cela ne servira de rien, n'est-ce pas ?» Hakim croisa ses bras derrière le dos. « Songez plutôt, » continua Kirillovna. « Ne vaudrait-il pas mieux prier, madame, qu'elle vous fasse remise de votre redevance ?»« Alors, comme ça, l'auberge est perdue pour moi ?» répéta Hakim de la même voix blanche. « Je vous l'ai déjà dit, Hakim Semyonitch, c'est impossible, vous le savez mieux que moi. Dites-moi au moins pour combien elle a été vendue. »« Mais je ne saurais vous le dire, Hakim Semyonitch, je n'en sais rien moi-même. » « Mais pourquoi vous tenez-vous debout? Asseyez-vous donc. »« Vous êtes bien honnête, mais un manant comme moi, ça peut rester debout, allez. »« Que dites-vous là, Hakim Semyovitch? Un manant, mais non, voyons. Vous restez un homme de négoce comme auparavant. Vous êtes même mieux que nous autres gens de service. Alors, croyez-moi, il ne faut pas vous désoler comme ça. Vous prendrez bien une tasse de thé. »« Non, merci, inutile de vous déranger. » « Alors comme ça, l'auberge vous reste, » dit-il en s'écartant de la muraille. « Eh ben, merci quand même. Bien le bonsoir, ma bonne dame. » Sur ce, il tourna le dos à la Kirillovna, qui le regarda sortir, ajusta son tablier et rejoignit sa maîtresse. « Avec me v'là devenu pour de bon un homme de négoce, » se dit Hakim avec un sourire amer quand il fut au portail. « Bon négociant, ma foi. Allons, rentrons toujours chez nous. » Et sans plus se soucier de la charrette de Nahum, Il prit à pied le chemin de l'auberge. Il n'avait pas fait un quart de lieue quand il perçut à son côté le roulement d'une voiture et le son d'une voix qui l'appelait. Hakim, Hakim Semilovitch! Il leva les yeux et aperçut une de ses connaissances, sacristain Ephrem, surnommé la taupe, petit homme rabougri avec un nez pointu et des yeux de myope. Il était assis sur une poignée de paille dans une méchante charrette, le buste penché sur la ridelle. « C'est dit que tu rentres chez toi ?» demanda-t-il à Hakim. « Oui, » répondit l'autre en s'arrêtant. « Veux-tu que je t'y vienne ?» Le point de refus. Après lui avoir fait place, Ephrem, qui paraissait revenir d'une station dans les vignes du Seigneur, se prit à fouiller avec les cordes qui lui servaient de rennes son maigre bidet, qui partit d'un trot fatigué en secouant sans cesse sa tête non bridée. Ils firent un bout de chemin sans se dire un mot. Hakim, la tête baissée, ne bougeait point. Ephrem grommelait dans sa barbe, excitant et retenant tour à tour son cheval. « Mais où es-tu allé comme ça, sans casquette, Semyonitch ?» demanda tout à coup le sacristain, et sans attendre la réponse d'Hakim. « Tu l'as laissé au cabaret, bien sûr, » continua-t-il. « Oh, je te connais, l'ami. T'es grand bibon, et c'est pour ça que tu me plais. Tu n'aimes ni donner des coups, ni faire du tapage, ni médire du monde, ni jeter l'argent par les fenêtres. Mais pour bibon, tu l'es, Ouida. Il y a beau jeu qu'on aurait dû t'envoyer au couvent, faire retraite au fond d'un cachot, car c'est une vilaine chose que de trop aimer le pio. » « Ouah, ouah, ouah » hurla-t-il soudain à pleine gorge. « Arrêtez, arrêtez !» s'écria une voix de femme. Hakim lève les yeux. Une femme accourait vers eux à travers champs, si pâle et si échevelée qu'il ne la reconnut pas tout d'abord. « Arrêtez, arrêtez !» gémit-elle encore, à bout d'haleine et tendant les bras. Hakim frissonna. C'était sa femme. Il saisit les rênes. « Mais pourquoi s'arrêter ?» grogna Ephrem. « Pour une femme, ton idée est eue !» Mais Hakim arrêta le cheval sur les jarrets. Juste à ce moment, Avdotia atteignait la route. Elle se jeta la face dans la poussière. « Hakim Semyonitch, glapit-elle. « Voilà qu'il m'a chassé, moi aussi !» Hakim la considéra en silence, sans faire d'autre mouvement que de serrer les rênes contre lui. « Ouah !» beugla de nouveau Ephrem. « Ah oui, il t'a chassé ?» proféra enfin Hakim. « Oui, mon bon ami, il m'a chassé !» répondit Avdotia en sanglotant. « Aster qui m'a dit, la maison est à bras, t'as plus qu'à fiche le camp !»
« Ça, c'est bien tapé !» déclara Ephrem.
« Alors c'est donc que tu comptais rester ?» dit Hakim avec amertume, mais toujours sans bouger. « Restez, mais mon ami !» dit vivement Avdotia, qui s'était relevé sur les genoux et se jeta de nouveau la face contre terre. « Tu sais pas encore ce que j'ai fait ?»« Tue-moi, Hakim Semyonitch, tue-moi sur la place !» Te battre, Arif Yefna, à quoi bon ? Rétorqua douloureusement Hakim. Tu as fait toi-même ton malheur, ça suffit comme ça. Non mais tu ne sais pas encore tout, Hakim Semyonitch. Ton argent, ton pauvre argent, n'y est plus. C'est moi, maudite, qui l'ai tiré de dessous le plancher. Je l'ai donné à l'autre, à Zvorien, à ce Naoum, maudite que je suis. « Mais pourquoi m'as-tu dit où tu le cachais ? C'est avec ton argent qu'il a acheté l'auberge, le gredin. » Les sanglots lui coupèrent la voix. Hakim se prit la tête à deux mains. « Eh quoi ? » s'écria-t-il enfin. « L'argent aussi, l'argent de la maison, tout. Et c'est toi, toi qui l'as volé. Oh, t'as un peu vipère que je t'écrase. » Et il sauta à bas de la charrette. « Semyonitch, voyons, Semyonitch, tu vas pas la battre, » balbutia Ephrem. « chez qui un événement aussi imprévu dissipait les fumées de l'ivresse.
Non, non, ne l'écoute pas, bats-moi, tue-moi, écrase-moi, maudite que je suis!
Criait Avdotia en se roulant convulsivement aux pieds d'Hakim. Celui-ci la considéra un moment sans faire le moindre geste. Puis il s'éloigna de quelques pas et se laissa tomber sur l'herbe au bord de la route. Un court silence se fit. Avdotia tourna timidement la tête du côté de son mari.
Semyonitch, voyons, Semyonitch, reprit Ephrem en se soulevant dans sa charrette. Calme-toi. Le malheur est fait, il n'y a plus moyen d'y remédier.
Non, 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 quelle aventure, grommela-t-il entre ses dents. Oh, la satanée garce. Mais qu'attends-tu pour aller le trouver? Ajouta-t-il en se penchant vers Avdotia. Tu vois donc pas qu'il perd la boule?
Avdotia se releva, s'approcha d'Hakim et tomba de nouveau à ses pieds.
« Mon bon ami !»
commença-t-elle d'un ton languissant. Hakim se leva et revint vers la charrette. Avdotia se pendit aux bases de son cafetan.
« Va te faire foutre !» jeta Hakim d'une voix farouche et il la repoussa rudement.
« Alors où veux-tu donc aller ?» demanda Ephrem en le voyant se rasseoir auprès de lui.
Ben, « Tu voulais me ramener chez moi tout à l'heure, » répondit Hakim.
« Conduis-moi plutôt chez toi maintenant.
Ben, tu vois, j'ai plus de maison. Paraît qu'on me l'a acheté.
Bon, allons chez moi si tu veux, mais qu'allons-nous faire de ta femme ?»
Hakim ne répondit rien. Avdotia saisit la balle au bond.
Mais oui, moi, priait-elle, vas-tu me laisser comme ça, toute seule? Chez qui veux-tu que j'aille?
Chez celui à qui t'a porté mon argent, repartit Hakim sans se retourner.
Allez, fouette, Ephrem!
Ephrem obéit et la charrette s'éloigna, tandis qu'Avdotia poussait des hurlements de désespoir. Ephrem habitait à un quart d'heure de lieu de l'auberge, une des modestes demeures affectées aux desservants d'une église isolée, grande bâtisse neuve à 5 coupoles dues à la libéralité testamentaire d'un ancien négociant. Durant tout le trajet, le sacristain se contenta de secouer parfois la tête et d'émettre des « ah » et des « eh », mais il ne dit mot à son compagnon, qui d'ailleurs lui tournait presque le dos et ne bougeait pas d'un pouce. Ils arrivèrent enfin. Ephrem sauta le premier de la voiture. Une petite fille de 5 à 6 ans, dont la longue chemise était retenue sur les flancs par un semblant de ceinture, accourut à sa rencontre en criant
« Papa, papa !»«
Où est ta mère ?» demanda le sacristain.
« Elle dort dans le fenil. »
« Laisse-la dormir. »«
Hakim Semyonitch, que faites-vous donc? Allez, prenez la peine d'entrer. »
Il faut remarquer que cet homme d'église ne tutoyait Hakim qu'à ses heures d'ébriété. Et des gens bien plus huppés disaient aussi « vous » à l'aubergiste. Hakim entra.
« Faites-moi la grâce de vous installer sur ce banc, » disait Ephrem. « Voulez-vous bien vous sauver, espèce de garde-banc » cria-t-il à l'adresse de 3 autres marmots qui surgirent soudain de 3 coins de la chambre en compagnie de 2 chats squelettiques et barbouillés de cendres.
« Allez-vous se filer, et plus vite que ça !»«
Par ici, Hakim Semyonitch, par ici, s'il vous plaît. »«
Mais dites-moi, désirez-vous pas quelque chose ?»
Hakim desserra enfin les dents. « Ma foi, Ephrem, s'il y avait moyen de trouver un verre d'eau de vie ?»
Le sacristain dressa les oreilles.
« De l'eau de vie, oh, ça peut s'arranger. J'en ai pas à la maison, mais je vais courir chez le père Théodore. Là, on est toujours sûr d'en trouver. Je reviens à l'instant. »
Il empoigna son bonnet à oreillettes.
« Apporte-en le plus possible, » lui cria Hakim, quand il le vit sortir. « Ne tourmente pas pour le paiement. J'ai encore assez d'argent pour ça. »
« À l'instant, » répète Ephrem en s'éclipsant. Il revint bien vite, en effet, avec 2 bouteilles sous le bras, dont il avait déjà eu le temps de déboucher l'une.
Il les posa sur la table avec deux petits verres verdâtres, du sel et un château de pain. « J'aime mieux ça !» déclara-t-il en s'attablant en face d'Hakim. « À quoi bon se tourner les sangs ?» Il remplit les deux verres et se mit à bavarder. La conduite d'Avdotia l'avait fort intrigué. « Quelle histoire ! Mais c'est-à-dire y a à comprendre ! Comment pareille chose peut-elle arriver ? Il faut pour sûr qu'il lui ait jeté un charme !»« Oh, une femme, voyez-vous, ça doit toujours se tenir au cul et aux chausses !» Malgré tout, vous feriez bien de passer chez vous. N'allez pas abandonner comme ça tout votre safrusquin. Et Ephrem continua longtemps sur ce ton. Tout en humectant son gosier, le digne homme aimait également faire aller sa langue. Une heure plus tard, voici ce qui se passait dans la maison du sacristain. Hakim, qui pendant toute la ribote avait avalé verre sur verre, sans répondre un traître mot aux questions, remarques et aphorismes de son trop loquace amphitryon, Hakim, le visage cramoisi, dormait sur le poêle d'un sommeil lourd et pénible. Cependant que les marmots le considéraient d'un œil surpris, et qu'Ephrem, hélas, dormait également, mais dans un réduit aussi frais qu'exigu, où l'on avait enfermé sa tendre épouse, personne de caractère décidé, de constitution athlétique. Il était allé la réveiller dans le fenil pour lui tenir des propos où les menaces alternaient avec les calembres d'Aine. Comprenant aussitôt de quel pied il boitait, l'énergique matrone l'avait pris au collet et mené à ce réduit, où le digne homme dormait d'ailleurs fort paisiblement. Affaire d'habitude, n'est-ce pas? Kirillovna, on s'en souvient, n'avait pas fidèlement transmis à sa maîtresse sa conversation avec Hakim. On peut en dire autant d'Avdotia. Naoum ne l'avait pas chassé, l'acte de vente l'obligeant à donner aux anciens maîtres de l'auberge le temps de se retourner. L'explication qu'ils avaient eue ensemble s'était passée fort différemment. Quand Hakim se fut jeté dehors en criant qu'il allait au château, Avdotia, stupéfaite, frappa dans ses mains et regarda Naoum avec de grands yeux. « Seigneur, mon Dieu, fit-elle, qu'est-ce que cela veut dire ? Comment, Naoum Ivanitch, vous avez acheté notre maison ?
Mais oui, pourquoi pas ? »
Avdotia ne trouva d'abord rien à répondre, mais bientôt, prise d'une alarme subite.
« Ah, c'est donc pour cela, s'écria-t-elle, que vous aviez besoin de l'argent. »
« Comme il vous plaît de le dire.
Hé hé !» ajouta-t-il en entendant la charrette s'éloigner.
« Il me semble que votre cher mari a pris mon cheval. Quel gaillard !»«
Mais c'est du brigandage !»
gémit Avdotia.
« Mais c'est notre argent, l'argent de mon mari !» Et l'auberge nous appartient.
Faites excuse, Avdotia Refievna. L'auberge appartenait à votre dame, puisqu'elle était construite sur sa terre. Il n'y a pas à ergoter là-dessus. Quant à l'argent, il était bien à vous, pour sûr, seulement. Vous avez eu, comme qui dirait, la bonté de me l'offrir. Je vous en ai bien de la reconnaissance, et même à l'occasion, je vous le rendrai. À supposer que pareille croisière se présente, car, voyez-vous, faudrait tout de même pas qu'à cause de vous, je reste gueux. »
Naoum proféra cette phrase le plus tranquillement du monde, en esquissant même un sourire. Mais Avdotia se prit à hurler.
« Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment pourrais-je après cela me montrer aux yeux de mon mari? Mais, misérable !»
ajouta-t-elle en regardant avec une haine subite le jeune et frais visage de Naoum.
« J'ai perdu mon âme pour toi, mais je suis devenue une voleuse pour toi, et voilà que tu nous jettes à la rue. Je n'ai plus qu'à me passer la corde au cou à cause de toi, bandit, fourbe, Judas !»
Elle éclata en sanglots.
« Mais vous mangez donc pas les sangs, Avdotia Rishvefna !»
jeta Naoum d'un ton gouailleur.
Charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Et puis, comme on dit chez nous,
Vous n'auriez pas dû oublier que s'il y a des brochets dans la rivière, c'est pour que la tâche ne s'endorme pas.
Mais où allons-nous aller maintenant? Qu'allons-nous devenir?
Balbutia Avdotia à travers ses larmes.
Oh, pour ce qui est de ça, je ne voulais pas vous le dire.
Mais je te tuerai, scélérat, je te tuerai.
Dis donc pas de bêtises, Avdotia et Fievna, vous n'en ferez rien. Seulement, vaut peut-être mieux que je m'éloigne un peu, vous faites trop de tracas. On va donc pour le moment vous tirer notre révérence, mais on viendra demain, sans faute. En attendant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous enverrai dès aujourd'hui mes garçons, déclara-t-il.
Tandis qu'Avdotia affirmait toujours à travers ses pleurs qu'elle le tuerait, qu'elle se tuerait ensuite.
Tenez, les voilà justement qui s'amènent, ajouta-t-il avec un regard à la fenêtre. Tant mieux, ma foi, comme ça, je m'en irai plus tranquille. Un malheur est si vite arrivé. Vous aurez l'obligeant d'emballer dès aujourd'hui toutes vos petites affaires, et si vous le désirez, mes gars vous donneront volontiers un coup de main, tout en veillant au grain. Sur ce, j'ai bien l'honneur.
Il s'inclina, sortit et appela ses garçons. Avdotia se laissa retomber sur son banc, se coucha à demi sur la table, se tordit les mains de désespoir, puis, soudain redressée, elle se jeta dehors d'un bond et courut à la recherche de son mari. Nous avons raconté leur entrevue. Abandonnée par Hakim au beau milieu de la route, elle resta là un beau moment à geindre et à se lamenter. Quand elle eut pleuré tout son sou, elle se décida à gagner le château. Il lui fut fort pénible d'y entrer, plus pénible encore de se montrer en cet état à ses anciennes camarades qui l'entourèrent toutes avec des mines de compassion. Les larmes jaillirent de nouveau de ses paupières gonflées et rougies. À bout de force, elle se laissa tomber sur une chaise. On alla prévenir Krylovna, qui l'accueillit fort gracieusement, mais n'eut garde de la laisser pénétrer jusqu'à leur maîtresse. Du reste, Avdotia n'insista guère, étant venue avant tout chercher un refuge, car elle ne savait vraiment plus où a reposé sa tête. Kirillovna fit apporter le samovar, et après s'être longtemps fait prier, Avdotia consentit à prendre une tasse de thé, qui fut immédiatement suivie de quatre autres. Ses sanglots, ses frissons se firent bientôt moins fréquents, et l'astucieuse camériste profita de cette accalmie pour lui demander où il comptait dorénavant s'établir. La question provoqua une nouvelle crise et Avdotia assura en pleurnichant qu'il ne lui restait plus qu'à mourir. Mais en femme de tête, Kirillovna l'arrêta court pour lui démontrer qu'au lieu de perdre son temps en lamentations inutiles, elle ferait mieux de rassembler incontinent ses affaires et de les transporter au village, dans la chaumière familiale d'Hakim, où logeait ce vieil oncle qui n'avait pas approuvé son mariage. Madame ne refusera certainement pas des hommes et des chevaux pour vous aider. Et quant à vous, ma chère enfant, ajouta Kirillovna, dont un sourire aigre-doux plissait les lèvres de chatte, soyez assuré qu'il y aura toujours ici place pour vous, et qu'il vous sera très agréable de vous donner asile jusqu'à ce que vous ayez une autre demeure. Mais surtout n'oubliez pas qu'il ne faut jamais se laisser abattre par l'adversité. Comme vous le savez, Dieu l'a donné, Dieu l'a repris, Dieu peut le reprendre encore. Nous sommes tous dans sa main. Par suite de diverses considérations, Elisabeth Prochorovna s'est vue dans la nécessité de vendre votre auberge. Mais dès qu'elle le pourra, elle vous dédommagera, certainement, d'une manière ou de l'autre. Elle m'a bien prié de le dire à Hakim Semyonitch. Et à propos, où est-il ? Avdotia répondit que, l'ayant rencontré, Hakim lui avait fait affront et s'en était allé chez Ephrem, le sacristain.
« Comment ? Chez cet individu ?» s'exclama Krylovna sur un ton qui en disait long. « Après tout, oui, je comprends qu'il ait du chagrin. En tout cas, on aura de la peine à mettre la main dessus aujourd'hui. Mélanie, appelez-moi Nicanor Ilitch. Je m'entendrai avec lui. »
Nicanor Ilitch, une sorte d'intendant de mine fort chétive, ne tarda pas à paraître. Il écouta avec déférence ce que lui dit Kirillovna, et dès qu'elle eut achevé, il déclara que tout serait ponctuellement exécuté. Emmenant aussitôt Avdotia, il mit à sa disposition les trois premiers paysans venus avec leurs charrettes. Un quatrième s'ajouta de lui-même au convoi, sous le prétexte qu'il saurait mieux s'y prendre que les autres. Avdotia reprit en leur compagnie le chemin de l'auberge, où elle trouva ses garçons et la servante Fétinia en proie à une confusion, à une terreur extrême. Depuis qu'ils y étaient installés, les trois vigoureux gaillards recrutés par Nahum avaient fait si bonne garde que les fers de roue d'un chariot neuf avaient déjà disparu. Ce fut le cœur bien gros qu'Avdotia accomplit sa triste besogne. Malgré l'aide de l'habile homme, qui ne fit d'ailleurs pas autre chose que de se promener, en crachotant le long en large un bâton à la main, elle ne put quitter l'auberge le jour même et dut y passer la nuit. Après avoir prié Fétinia de rester dans sa chambre, elle ne s'endormit qu'à l'aurore dans un sommeil fiévreux, et les larmes coulaient encore sur ses joues après qu'elle eut perdu connaissance. Cependant, le sacristain s'était réveillé plus tôt que de coutume dans son étroit réduit. Il se mit à cogner contre la porte, à supplier sa femme de le laisser sortir. Celle-ci refusa d'abord, sous prétexte qu'il n'avait pas assez cuvé son eau-de-vie. Mais il piqua sa curiosité en promettant de lui raconter l'étrange aventure dont Hakim avait été la victime. Elle tira la chevillette. Ephraim lui conta ce qu'il savait et s'enquit de son compagnon. Était-il ou non réveillé ?
Dieu le sait, répondit la femme. Vas-y voir toi-même. Il n'est pas encore descendu du poêle. Mais vous avez pris une cuite hier soir. Regarde voir un peu ta figure, on dirait une écumoire. Et t'as du foin plein les cheveux.
Bon, fiche pas mal, rétorqua Ephraim.
Baraqui de conscience, il se passa la main dans les cheveux et passa dans la salle. Hakim ne dormait plus. Assis sur le poêle, les jambes pendantes, il montrait un visage d'autant plus chiffonné, d'autant plus hagard, qu'il n'avait pas l'habitude de s'enivrer.
« Avez-vous bien reposé, Hakim Semyonitch ?» s'enquit Ephraim.
Hakim posa sur le sacristain un regard trouble.
« Dis-moi, frérot, proféra-t-il d'une langue batteuse, y aurait-il pas moyen de remettre ça ?»
Ephraim leva sur lui un œil émerillonné. Il éprouvait un frisson assez semblable au tressaillement du chasseur à l'affût, qui entend soudain aboyer les chiens dans un bois d'où il n'espérait plus faire sortir du gibier.
« Comment encore ? » demanda-t-il.
« Oui, encore. »«
Ça peut se faire. »« Patientez un peu, » répondit Ephraim,
tout en songeant à part soi.
« Ça va pas être commode. Si je tombe sur la bourgeoise, alors gare. »
Il sortit cependant et, grâce à d'habiles manœuvres, il réussit à introduire subrepticement une grosse bouteille dont Hakim s'empara aussitôt. Par crainte de sa bourgeoise, Ephraim refusa cette fois de lui tenir compagnie.
« Bon, mais faire un tour par chez vous, » lui déclara-t-il, « histoire de voir ce qui se passe et de veiller à ce qu'on ne vous vole pas. »
Il partit en effet sur son pauvre cheval qu'il avait oublié de nourrir. Mais il ne s'était pas oublié lui-même, à en juger par l'enflure bizarre de son caftan. Peu après son départ, Hakim dormait de nouveau comme un mort sur le poêle. Il ne donna même pas signe de vie lorsque, 4 heures plus tard, Ephraim se mit à le secouer pour lui faire un rapport fort embrouillé sur son expédition. Tout était fini et parti, on avait déménagé jusqu'aux saintes images. On demandait à Kim à corps et à cri, mais lui et Ephraim avaient bien spécifié qu'on ne dérangea point, etc., etc. Il ne divaga d'ailleurs pas longtemps, sa robuste moitié lui ayant bientôt fait reprendre le chemin de la resserre, tandis qu'elle-même, fort indignée, et contre son mari, et contre l'important visiteur qu'il avait débauché, grimpait dans la soupente. Suivant sa coutume, elle s'éveilla de très bonne heure. Ses regards étant venus à tomber sur le poêle, elle s'aperçut qu'Hakim n'y était plus. Les coqs n'avaient pas encore chanté pour la seconde fois. L'aurore s'annonçait à peine par quelques teintes grises juste au-dessus de sa tête, que déjà Hakim franchissait le portail. Son visage était blême et ses yeux jetaient autour de lui des regards scrutateurs et sa démarche n'était pas d'un homme ivre. Il se dirigea vers son ancienne demeure, vers cette auberge devenue la légitime propriété de Nahum. Et Nahum non plus ne dormait pas. Il avait jeté sa peau de mouton sur un banc et s'était étendu dessus tout habillé. Mais le sommeil le fuyait. Non pas que sa conscience le tourmentât, mais il avait assisté depuis le matin à l'emballage et au déménagement de tous les effets d'Hakim. Il avait même adressé plus d'une fois la parole à Avdotia, trop abattu pour lui adresser de nouveaux reproches. Non, sa conscience était tranquille, mais son esprit travaillait. Réussirait-il dans cette nouvelle carrière, lui qui n'avait jamais tenu d'auberge, jamais eu à lui le moindre coin? L'affaire était bien mise en train, mais comment marcherait-elle par la suite? Après avoir expédié la veille au soir la dernière charrette chargée du mobilier d'Hakim, qu'Avdotia suivit en pleurant, il avait minutieusement visité toute la maison de la cave au grenier, sans oublier ni les hangars ni les remises, et prescrit plutôt 10 fois qu'une à ses garçons de faire bonne garde. Demeuré seul après le souper, il n'avait pu trouver de repos, bien qu'à sa grande satisfaction, aucun voyageur n'eût demandé ce jour-là à passer la nuit. « Bon, ils ont emmené leur chien, nom de nom !» pensait-il en se retournant d'un côté sur l'autre. « Va falloir de demain en acheter un autre. Un beau chien bien méchant. Le meunier en tient des comme ça. » Et tout à coup, il dressa la tête. Il avait cru entendre des pas sous la fenêtre. Il prêta l'oreille. Rien. Il ne percevait que le cri-cri du grillon dans le foyer, le grignotement d'une souris en quelque coin et le bruit de sa propre respiration. Tout était tranquille dans la pièce, presque vide, éclairée faiblement par la veilleuse de l'image sainte qu'il avait déjà eu le temps de mettre en place. Il reposa la tête, mais bientôt il lui sembla entendre gémir la porte cochère et craquer la palissade. Il ne put y tenir, il bondit de son banc, ouvrit la porte du vestibule et appela à voix basse « Fiodor ! Fiodor !» Personne ne lui répondit. Il franchit le seuil et faillit choir en heurtant du pied Fiodor, qui dormait étendu par terre. L'homme s'agita, marmonna dans son sommeil. Nahum le secoua rudement. « De quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?»« Chut, gueule pas comme ça !»« Alors vous roupillez, mes gaillards, mais n'as-tu rien entendu ?» « Non, rien. »« Et où sont couchés les autres ?»« Ben, où est-ce que vous l'avez dit ? » »« S'est-il guère arrivé quelque chose ?»« Chut, suis-moi !» Nahum ouvrit doucement la porte. La cour était plongée dans l'obscurité. Si l'on distinguait les piliers de la galerie, c'est que leur lourde masse tranchait en plus noir sur le noir de la nuit. « Je suis qu'on allumait une lanterne !» murmura Fiodor. Nahum le fit taire d'un geste et retint sa respiration. Il entendit d'abord que les bruits nocturnes que l'on perçoit d'ordinaire dans tout lieu habité. Un cheval mangeait son avoine, un homme ronflait quelque part, un pourceau endormi poussait de faibles grognements. Mais bientôt un bruit suspect s'éleva du fin fond de la cour, tout contre la palissade. Un être quelconque semblait-il bénémener en soufflant ou en respirant avec force. Nahum jeta par-dessus son épaule un regard à Fiodor. Puis descendant du perron à pas de loup, il se dirigea vers ce bruit. Une ou deux fois, il s'arrêta pour prêter l'oreille et reprit sa marche furtive. Tout à coup, il tressaillit. À 10 pas de lui, devant, un point lumineux brilla dans les ténèbres. C'était un charbon ardent dont la lueur laissa voir une bouche entrouverte qui soufflait dessus. Sans vous dire, Naoum bondit sur ce feu comme le chat sur la souris. Un long corps se souleva vivement de terre, faillit le renverser, lui glissa presque entre les mains, mais il put s'y cramponner de toutes ses forces. « Fyodor, André, Pietrushka !» hurla Naoum. « Vite, vite ici ! J'ai attrapé un voleur, un incendiaire !» L'homme se débattait désespérément, mais Naoum le tenait comme dans un étau. Fyodor accourut à la rescousse. « Elle a une lanterne ! Vite une lanterne ! Cours la chercher, réveille tous les autres !» lui cria Naoum. « Il m'échappera pas, je suis assis dessus. Allez, cours vite et apporte aussi une ceinture pour l'attacher !» Fyodor obéit. L'homme qui tenait Naoum cessa tout à coup de lutter. « Alors, t'as pas assez de ta femme et de l'argent et de l'auberge ? Tu veux aussi me perdre, moi ?» dit une voix étouffée que Naoum reconnut pour celle d'Hakim. « Oh, c'est toi, mon bonhomme. Eh bien, attends un peu, tu vas voir. Lâche-moi, est-ce que tu n'en as pas assez comme ça ? Je te montrerai demain devant la justice si j'en ai assez. » Et Naoum serra plus fortement encore son étreinte. Les garçons accoururent avec 2 lanternes et 2 cordes. « Liez-le !» leur commanda brusquement Naoum. Les gars s'emparèrent d'Hakim, le soulevèrent, lui attachèrent les mains derrière le dos. L'un d'eux lui adressait déjà des injures quand il reconnut l'ancien maître de l'auberge. Il s'arrêta tout interdit et échangea un regard avec ses camarades. « Bon, voyez, voyez !» disait cependant Naoum en promenant sa lanterne sur le sol. « Il a apporté du charbon dans un pot, tout un brasier. » « Faudra s'enquérir où il a pris tout ça. Il a aussi cassé des branches, tenez » ajouta-t-il en éteignant soigneusement le feu sous ses pieds. « Allez, fouillez-le, Fyodor. Comment s'il n'y a pas encore quelque chose ?» Fyodor fouilla Hakim qui se tenait immobile, la tête penchée sur sa poitrine, comme celle d'un mort. « Ben, il a quelque chose, en effet, » dit le gars en tirant de dessous le cafetan d'Hakim un vieux couteau de cuisine. Mon gaillard, voilà où tu voulais en venir. Allez, vous êtes témoins, les gars, qui voulaient m'assassiner, mettre le feu à ma maison. Enfermez-le jusqu'au matin dans la cave, pourra pas s'en échapper. Je le surveillerai moi-même et dès le petit jour, on l'emmènera à la police. Et vous serez tous témoins, entendez-vous ? On poussa Hakim dans la cave où l'on referma la porte sur lui. Naoum mit 2 de ses gens en faction à la porte, et lui-même ne se coucha plus. Cependant, la sacristine, s'étant dûment convaincue que l'intrus avait vidé la place, voulut, bien que l'aube pointât à peine, vaquer à sa cuisine. C'était dimanche. Elle s'accroupit devant le poêle pour y prendre du feu et s'aperçut qu'on avait déjà enlevé toute la braise. Elle chercha son grand couteau et ne le trouva point. Enfin, de ses 4 pots, il en manquait un. Cette femme passait, et à juste titre, pour une tête solide. Après avoir réfléchi à la chose, elle s'en alla secouer son mari. Ce ne fut pas chose facile de réveiller l'ivrogne, et encore moins de lui faire comprendre de quoi il retournait. À tout ce qu'elle lui disait, Frem répétait toujours « Il est parti, il m'est occupé, que le bon Dieu le bénisse !» Il a emporté un pot, un couteau, qui puis-je, que le bon Dieu le bénisse. Il finit pourtant par se lever et après avoir prêté à sa bourgeoise une oreille plus attentive, il convint que c'était une méchante affaire et qu'on ne pouvait pas en rester là. Oui, appuya la sacristine dans son désespoir, il est capable de faire un malheur. Je me suis bien aperçu hier soir qu'il ne dormait pas, il faisait que semblant. À ta place, Ephraim Alexandrovitch, j'irai au renseignement.
Écoutez bien ce que je vais vous dire, Ulyana Fyodorovna. Je file à l'auberge, sans plus tarder, mais de votre côté, vous allez me donner un petit verre d'eau de vie, histoire de faire passer mon mal de cheveux. »
Soit, dit la sacristine après un peu d'hésitation, je vais te donner un petit verre, mais prends garde de faire des sottises.
Pouvez être tranquille sur ce point, Ulyana Ivanovna. Une fois ragué, hardi, Ephrem partit pour l'auberge.
Le soleil se levait à peine quand il y arriva, et déjà une charrette où se tenait un des gars de Naoum, les rênes dans les mains, attendait au portail.
Poussons va-t-on comme ça ? S'enquit Ephrem.
À la ville, répondit l'autre à contre-cœur.
Et pourquoi faire ?
En guise de réponse, le gars haussa les épaules. Ephrem mit pied à terre, monta le perron et se heurta dans le vestibule à Naoum, tout habillé, la casquette sur la tête.
« Tous nos soins de bienvenue et d'heureuses installations au nouveau propriétaire !»
claironna Ephrem, qui connaissait personnellement Naoum.
« Où allez-vous de si bonne heure ?»«
Il y a de quoi me féliciter, » rétorqua brusquement Naoum. « Dès le premier jour, j'ai failli brûler. » Ephrem tressaillit.
« Pas possible, mais qu'est-ce qui vous est donc arrivé ?»
Ben, il m'est arrivé qu'un brave homme a voulu mettre le feu à ma maison, voilà. Ben, j'ai eu la chance de le prendre sur le fait, et maintenant, je l'emmène à la ville.
Et ne serait-ce pas Hakim ?
Demanda lentement Ephrem.
Oui, c'est lui. Comment l'as-tu deviné ? Mais il est venu cette nuit avec des tisons dans un pot. Il était en train d'attiser le feu quand je l'ai passé. « Mes gars sont tous témoins, veux-tu le voir ? Il est justement temps qu'on l'emmène. »«
Vous feriez bien de le relâcher, mon bon Naoum Ivanitch. Un pauvre vieux au désespoir, vous comprenez, ça perd facilement la tête. Allez, prenez pas ce péché pour votre conscience. »«
Qu'est-ce qu'il me chante là, le relâcher, pour qu'il revienne me brûler des mains ?»«
Il reviendra pas, Naoum Ivanitch, croyez-moi. »
Et de cette façon, vous aurez moins de désagréments que si vous le traînez devant les tribunaux. La justice est curieuse, vous savez.
Mais la justice, je la crains pas.
Bon, Naoum Ivanitch, qui peut se vanter de ne pas craindre la justice?
Ah, c'est comme ça, hein? Tu la soudes le matin et un dimanche encore.
Ephrem fondit subitement en larmes.
« Ouais, je suis saoul, mais je dis la vérité, » marmonna-t-il. « Pardonnez-lui, Naoum Ivanitch, pour la fête de notre Seigneur. »« Allez, viens toujours, espèce de pleurnicheur. »
Et Naoum se dirigea vers la cour. Ephrem lui emboîta le pas.
« Faites-lui grâce pour l'Avdodia Raïfevna, » reprit-il.
Naoum s'approcha de la cave et en ouvrit la porte toute grande. Ephrem, avec une curiosité craintive, étendit le cou par derrière Naoum, et dans un coin de la cave, qui n'était pas profonde, il finit par reconnaître Hakim. Le riche aubergiste, naguère respecté dans tout le voisinage, était étendu sur de la paille, les mains liées comme un criminel. Le bruit lui fit lever la tête. Il paraissait avoir affreusement maigri pendant ces deux derniers jours, pendant cette nuit surtout. Ses yeux enfoncés se voyaient à peine sous son front devenu d'un jaune de cire. Ses lèvres étaient sèches et noires. Son visage bouleversé avait pris une expression étrange, farouche et craintive à la fois.
« Lève-toi et sors !» dit Naoum.
Hakim se leva et franchit péniblement le seuil de la cave.
« Mais Hakim, c'est bien vite, hurla Ephrem. Qu'as-tu fait? Tu t'es perdu, mon pauvre ami !»
Hakim le regarda sans mot dire.
« Bon, si j'avais su pourquoi tu me demandais de l'eau de vie, je t'en aurais pas donné. »« Non, ma parole, je t'en aurais pas donné. Je l'aurais plutôt tout bu moi-même. » « Naoum Ivanitch, » ajouta-t-il en tirant celui-ci par la manche, « allez, faites-lui grâce, relâchez-le. »«
Oui, Konzi, » rétorqua Naoum avec un mauvais sourire.
« Eh bien, » dit-il en se retournant vers Hakim, « avance, qu'est-ce que t'attends ?»«
Naoum Ivanov,
fit Hakim.
Qu'est-ce qu'il te faut encore ? Naoum Ivanov, répéta Hakim.
Écoute-moi. Moi, je suis coupable. J'ai voulu me rendre justice moi-même et c'est Dieu qui doit nous juger.
Tu m'as tout pris. Tu le sais bien, tout jusqu'au dernier liard.
Maintenant, tu peux m'achever.
Écoute pourtant ce que je vais te dire. Si tu me relâches à présent, eh bien, soit je me résigne. Allez, que tout soit à toi, j'y consens, et je te souhaite bonne chance. Je te le dis comme devant Dieu. Si tu me relâches, tu n'auras pas à t'en repentir. Que le bon Dieu te bénisse.
Hakim se tut et ferma les yeux.
C'est ça, on n'a qu'à te croire, ricana Naoum.
Et bien sûr qu'on peut le croire, intervint de nouveau Ephrem.
Dalim Semyonitch, moi, voyez-vous, je suis prêt à répondre sur ma tête. Parole d'honneur.
Des blagues, s'écria Naoum. Partons. Hakim rouvrit les yeux et le dévisagea.
Comme tu voudras, Naoum Ivanov. Mais tu charges pas trop ta conscience, eh bien, partons, puisque c'est-y pressé.
Naoum le fixa d'un œil scrutateur.
Bah, après tout, se dit-il, faudrait peut-être mieux l'envoyer au diable. Autrement, le monde me déchira à belles dents et Avdotia me mangera tout cru.
Et pendant que Naoum se consultait, personne ne prononça une parole. Le conducteur de la charrette, qui voyait toute la scène à travers la porte, hochait la tête en faisant claquer les rênes sur la croupe du cheval. Et les deux autres gars, plantés sur le perron, se taisaient également.
« Eh bien, vieux, écoute, dit enfin Naoum, si je te lâche et si je te défends à mes gens de parler, eh bien, serons-nous quittes ensemble. Comprends-moi bien, serons-nous quittes.
Je te l'ai déjà dit, garde tout.
Ce sera bien entendu, je ne te redevrai plus rien.
Non, on ne se redevra plus rien l'un à l'autre.
Naoum réfléchit encore quelques instants. Jure-le,
je jure devant Dieu.
Allons, fit Naoum à la grâce de Dieu. Bon, pas tirer bien sûr, mais tant pis, allez, donne-moi tes mains.
Hakim se tourna, Naoum se mit en devoir de le délier.
Rappelle-toi, vieux, proféra-t-il en détournant les cordes, que je t'ai fait grâce, l'oublie pas, hein.
Bon, un beau mouvement, Naoum Ivanitch, balbutia Ephrem tout ému.
Soyez sûr que notre Seigneur vous en tiendra compte.
Hakim fit jouer ses bras gonflés et refroidis et se dirigea vers le portail.
Naoum parut soudain se repentir d'avoir lâché sa proie. Prends garde, lui cria-t-il, t'as juré devant Dieu.
Hakim se retourna, promena ses regards sur son ancienne demeure et proféra avec une infinie tristesse.
Oh, garde tout et pour toujours, irrévocablement, adieu.
Et, suivi d'Ephrem, il gagna la route à pas lents. Naoum abandonna d'un grand geste les choses à leur destin et rentra chez lui après avoir donné ordre de dételer.
Comment, Hakim Semyonitch, c'est pas chez moi que vous allez ?
S'exclama Ephrem en voyant son compagnon s'engager dans le chemin de droite.
Non, merci, Ephrem, m'en vais voir ce que devient ma femme. Vous avez bien le temps, voyons. Allez, s'agirait d'abord, après le retour dur, comprenez les choses. Non, merci, Ephrem, c'est comme ça. Adieu.
Et Hakim s'en alla sans se retourner.
Oh, par exemple, c'est comme ça, bougonna le sacristain ébahi. Et moi qui ai répondu de lui sur ma tête. Si je m'attendais à pareille ingratitude, fi.
Il se rappela opportunément qu'il avait laissé dans l'auberge son pot et son couteau. Naoum les lui fit rendre, mais ne songea guère pas à lui offrir un petit verre. Ce nouvel échec dégrisa complètement notre sacristain, qui rentra chez lui de fort méchante humeur.
« Eh bien, lui demanda sa femme, l'as-tu trouvé ? De quoi trouver? Ta vaisselle, lave-la.
Alors, c'était Hakim qui...
Oui, répondit Ephrem en hochant la tête. Ah, ton idée d'un coco pareil. J'ai juré pour lui tous mes grands dieux. Sans moi, il pourrirait à cette heure sur la paille, humide. Il n'a pas seulement voulu me payer la goutte. Vous, au moins, Ouliana Fyodorovna, vous allez bien sûr me montrer quelques considérations.
Loin de lui montrer la moindre considération, Ouliana Fyodorovna l'envoya fort galamment paître. Cependant, Hakim suivait à pas lents le chemin qui menait à son village. En proie à un tremblement intérieur, comme tout homme qui vient d'échapper à une mort certaine, il n'arrivait pas à reprendre ses esprits. À peine pouvait-il croire à sa liberté. Avec un étonnement stupide, il regardait les champs, le ciel, les alouettes qui palpitaient dans l'air tiède et léger. La veille, il avait eu beau s'étendre, immobile sur le poêle du sacristain, le sommeil l'avait fui depuis le dîner. Vainement, il avait essayé d'assoupir dans l'ivresse la douleur insupportable de l'offense reçue, les affres du courroux impuissant. L'eau de vie n'avait pu le vaincre. La colère bouillonnait en lui. Alors il se prit à ruminer des projets de vengeance qui tous visaient le seul Nahum. Elisabeth Prochorovna ne lui venait même pas à la pensée et il chassait impitoyablement jusqu'au souvenir d'Avdotia. Vers le soir, cette soif de revanche devint une véritable rage. Et ce brave homme, faible et débonnaire, attendit dans la fièvre le moment où il pourrait quitter son repère, comme un loup en quête de proie, et s'en aller, le feu à la main, détruire son ancien logis. Mais on l'avait saisi, enfermé. À quel tourment fut-il en proie durant ces heures cruelles? Pareille souffrance étant toujours muette, aucune parole ne saurait les rendre. Le matin, un peu avant la venue de Nahum et d'Ephrem, il éprouva comme un soulagement. « Tout est perdu, se dit-il. Le vent a tout emporté. » Et il s'abandonna à son destin. Né avec de mauvais penchants, Hakim eut pu devenir à cet instant un scélérat. Mais par bonheur, le mal était étranger à son âme. Une catastrophe subite, imméritée, l'avait certes entraîné à un acte de désespoir. Mais en l'ébranlant jusque dans son tréfonds, et l'échec de sa tentative criminelle ne lui avait laissé qu'une immense fatigue. Conscient de sa faute, il arracha son cœur à tout regret terrestre et se mit à prier avec une amère ferveur. Sa prière fut d'abord toute intérieure, mais il lui arriva de s'exclamer « Seigneur, mon Dieu !» Et les larmes coulèrent aussitôt. Il pleura longtemps et finit par se calmer. Ses sentiments auraient changé sans doute s'il lui fallut répondre de son acte. Mais tout à coup, on lui avait rendu la liberté, voici qu'il s'en allait, prêt à revoir sa femme, brisée, à demi-mort, mais tranquille. Le château était situé à une petite demi-lieue de son village. À la croisée des chemins qui conduisaient à l'un et à l'autre, il hésita un instant et résolut de voir d'abord son vieil oncle. La pauvre et déjà vieille chaumine se trouvait presque au bout du village. Il suivit toute la rue sans rencontrer homme qui vive. Tout le monde était à l'église. Seule une vieille femme malade souleva sa fenêtre pour le regarder s'éloigner, et une petite fille qui courait tirer de l'eau au puits s'arrêta pour le suivre elle aussi du regard. Le premier homme qu'il aperçut vit précisément cet oncle qu'il cherchait. Le vieux avait passé toute la matinée étendu sur le talus devant sa fenêtre à se chauffer au soleil et à humer quelques prises. Ne se sentant pas bien, il s'était dispensé de la messe et se proposait d'aller prendre des nouvelles d'un vieux voisin plus malade que lui lorsqu'il rencontra Hakim. Il s'arrêta, le laissa s'approcher
et après l'avoir scruté d'un coup d'œil, il proféra lentement « Bonjour, mon petit Hakim !»«
Bonjour !»
répondit l'autre qui, sans lever les yeux, le précéda dans l'enclos. Il y aperçut ses chevaux, sa vache, sa charrette et jusqu'à ses poules. Sans mot dire, il pénétra dans la maison et, se laissant tomber sur un banc, il s'y appuya de ses poings fermés. Debout dans l'embrasure de la porte, le vieux le considérait d'un œil pitoyable.
« Où donc est ma femme ?»
s'enquit enfin Hakim.
« Au château !»
se hâta de répondre le bonhomme.
« Ici, vois-tu, on a déposé ton bétail et tes coffres. Mais elle est là-bas. Veux-tu peut-être que j'aille la chercher ?»«
Vas-y, » répondit Hakim après quelques instants de réflexion.
« Mon oncle, ajouta-t-il avec un profond soupir,
tandis que le vieux décrochait son bonnet pendu à un clou.
« Te rappelles-tu ce que tu m'as dit la veille de mon mariage ?»« Nous sommes tous dans la main de Dieu, mon petit Hakim. Rappelle-toi, tu m'as dit alors que je n'étais plus votre égal à vous autres paysans, et me voilà devenu plus gueux qu'un rat d'église. Oh, serait-ce garer des mauvaises gens ?» « Il y en a trop !»
répliqua sentencieusement le vieux.
« Ce gars-là, vois-tu, c'est un loup et sa mort, un loup. Il n'y a donc pas seulement un gros monsieur pour le battre, le gredin. »
Sur ce, il enfonça son bonnet et se mit en route. Avdotyar venait de l'église quand on lui dit que l'oncle de son mari la demandait. Jusqu'alors, elle n'avait vu que bien rarement ce personnage. Il ne venait jamais à l'auberge et passait d'ailleurs pour un original peu loquace et passionné de tabac. Avdotia s'empressa d'accourir.
« Que veux-tu, Pietrovitch ? Il est arrivé quelque chose ?»«
Oh non, rien du tout, Avdotia Lefifna. Ton mari te demande. »«
Il est donc revenu ?»«
Oui. »«
Où est-il ? » ?»«
Chez nous, au village. »
Avdotia perdit son aplomb.
« Écoute, Pietrovitch, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux, « est-ce qu'il est fâché ?»«
Il en a pas l'air. »
Avdotia baissa la tête.
« Eh bien, allons. »
Elle se coiffa d'un grand fichu et tous deux se mirent en route. Ils firent le chemin en silence. Quand ils approchèrent de la chaumine, Avdotia sentit ses jambes se dérober.
« Pietrovitch, supplia-t-elle, entre le premier. Dis-lui que je suis venu à son appel. »
Pietrovitch trouva Hakim assis à la même place et plongé dans de profondes réflexions.
« Quoi ? »
dit le malheureux en levant la tête.
« Elle n'est pas venue ? » ?»«
Si, elle attend la porte. »«
En voilà moi. »
« Entre !»
dit le vieux une fois dehors en appelant Avdotia de la main. Et il se laissa retomber sur son talus. Avdotia ouvrit la porte en tremblant, franchit le seuil et s'arrêta. Hakim la dévisagea.
« Voyons, Alefiefna, commença-t-il, qu'allons-nous faire à présent ?»«
Pardon,
murmura-t-elle.
Oh, Alefia, nous sommes tous pécheurs. À quoi bon revenir sur le passé ?
Mais c'est lui, le scélérat, qui nous a perdus tous les deux,
reprit Avdotia d'une voix chevrotante, et des larmes lui coulèrent le long des joues.
Ne laisse pas les choses comme ça, Kim Semyonitch. Réclame ton argent, ne m'épargne pas. Je suis prêt à jurer sous serment que c'est moi qui le lui ai prêté. Elisabeth Prochorovna avait le droit de vendre notre auberge. Mais lui, pourquoi nous pique-t-il, le brigand ? Réclame ton argent.
Je n'ai plus d'argent à lui réclamer, rétorqua Hakim d'un ton morne. Nous sommes quittes.
Comment quittes ?
Fit Avdotia stupéfaite.
Oui, quittes,
répondit Hakim, tandis qu'une flamme passait dans ses yeux.
« Sais-tu où j'ai passé la nuit ? Tu le sais pas, eh bien,
dans la cave de Nahum, ligoté comme un mouton, voilà où j'ai passé la nuit. Oui, je voulais lui brûler sa maison à ce Nahum, mais il m'a pincé, le gaillard, il n'est pas dégourdi pour des prunes. Et aujourd'hui, il voulait m'emmener à la ville, mais au dernier moment, il m'a fait grâce. Tu vois bien que je n'ai plus d'argent à lui réclamer. Et d'ailleurs, comment le réclamerai-je? Il me demandera pour sûr. Quand est-ce que je t'ai emprunté de l'argent? Et veux-tu donc que je lui réponde? C'est ma femme qui l'a déterré sous le plancher, qui te l'a porté. Et bon, ta femme qui me dira. T'as peut-être pas assez fait parler de toi comme ça, hein? Tais-toi plutôt, allez, Rifna. C'est moi qui te le dis, allez, tais-toi. Oh, pardon, Semyonitch, pardon, balbutia de nouveau Avdotia éperdu. Il ne s'agit pas de ça, reprit Hakim après un court silence. Mais qu'allons-nous devenir maintenant? Nous n'avons plus de maison, plus d'argent. Mais on tâchera de se remonter, Hakim Semyonitch. On demandera à Elisabeth Prochorvna de nous venir en aide. Kirillovna m'a promis qu'elle le ferait. Oh non, Arifina, si le cœur t'en dit, il va faire des courbettes à la maîtresse avec ta Kirillovna, mais vous êtes de la même couvée, toutes les deux. Et voici ce que j'ai à te dire. Reste ici et que le bon Dieu te bénisse. Quant à moi, je m'en vais, par bonheur. Nous n'avons pas d'enfants, et seul je me tirerai toujours d'affaire. Qu'est-ce que tu dis, Semyonitch? Sais-tu que tu veux te faire roulier?
Hakim eut un sourire amer.
Oh, le beau roulier que je ferai à cette heure, parlons-en. Non, vois-tu, Arifiefna, roulage et mariage, c'est pas la même chose. Faut être jeune pour faire ce métier-là. Si je m'en vais, c'est parce que je veux pas qu'on me monte au doigt, comprends-tu? Et je profiterai de l'occasion pour prier le bon Dieu, pour implorer le pardon de mes péchés. Voilà où j'irai, Arifiefna. Tes péchés, mais t'en as donc commis, Semyonitch? Fit timidement Avdotia. Oh, ça, femme, c'est mon affaire. Mais moi, Semyonitch, que deviendrai-je? Comment pourrais-je vivre sans mon mari? Dis pas de bêtises, Arifiefna. Tu as bien besoin vraiment d'un mari comme moi, un vieux bonhomme sans le sou. Tu te passais bien de mari autrefois, ben tu t'en passeras encore à l'avenir. Quant au bien qui nous reste, ben allez, prends-le, je m'en moque. Comme tu voudras, Semyonitch, dit tristement Avdotia. Tu sais mieux que moi ce qu'il faut faire.
Ben, tout juste, ben, va pas croire que je t'en veuille, Arifiefna. À quoi bon se fâcher maintenant? J'aurais dû m'y prendre plus tôt. J'ai eu tort de ne pas le faire et j'en suis puni avec raison. Comme on fait son lit, on se couche, déclara Hakim avec un soupir. Je suis plus jeune, il est temps que je songe à mon âme. C'est le Seigneur lui-même qui m'a éclairé. Vieux fou que j'étais, je pensais comme ça me la couler douce avec ma jeune épouse. Non, mon vieux, faudrait d'abord avoir à prier, à jeûner, à souffrir, à frapper la terre du front. Et maintenant, laisse-moi, ma chère. Je suis bien fatigué. Je vais tâcher de faire un somme.
Et Hakim s'étendit en gémissant sur son banc. Avdotia fit mine de vouloir répondre, mais après lui avoir jeté un regard, elle se détourna et sortit.
« Eh bien, il t'a pas battu ?»
lui demanda Pietrovitch, recroquevillé sur son talus quand elle passa devant lui. Avdotia s'éloigna sans mot dire.
« Ah, voyez-vous ça, il l'a pas battu !»
grommela le vieux en souriant. Et après s'être dûment chiffonné la barbe, il aspira une prise avec délice. Hakim réalisa son projet. Il arrangea à la hâte ses affaires et quelques jours après leur entretien, il vint en tenue de voyage faire ses adieux à sa femme qui s'était provisoirement installée dans une aile du château. Leur entrevue ne fut pas longue.
Kirillovna, qui se trouvait présente, lui conseilla d'aller prendre congé de la maîtresse. Il y alla. Elisabeth Prochorovna le reçut avec une certaine confusion, mais elle l'admit gracieusement aux baises mains et lui demanda où il avait l'intention de se rendre. Hakim répondit qu'il commencerait par le pèlerinage de Kiev et se laissait ensuite guider par le doigt de Dieu. Elle loua fort sa résolution et le congédia. Depuis lors, il n'a fait que de rares apparitions au château, mais il ne manque jamais de rapporter un pain spécialement béni aux intentions de sa maîtresse. En revanche, dans tous les lieux de pèlerinage célèbres, à la Trinité Saint-Serge, à Saint-Nicolas-Blanc-Rivage, à l'Ermitage d'Opta, jusque dans l'île lointaine de Saint-Barlaam, on peut apercevoir son visage vieilli, émacié, mais toujours empreint d'une noble gravité. Une année, vous le voyez passer, confondu parmi la foule innombrable qui suit de Kourska à Korsluzno la procession de Notre-Dame du Tronc. L'année suivante, vous le rencontrez assis, le havresac sur le dos, au milieu d'autres pèlerins, sur le parvis de Saint-Nicolas de Mytsensk. Le printemps l'amène d'ordinaire à Moscou. De son pas lent mais infatigable, il chemine ainsi de pays en pays, et l'on prétend même qu'il a vu Jérusalem. Il paraît parfaitement heureux et tranquille, et ceux à qui il arrive de s'entretenir avec lui vantent beaucoup sa piété, sa sagesse et sa résignation. Pendant ce temps, Naoum s'était mis résolument à l'œuvre, et ses affaires, bien menées, prenaient un bon train. Tout le canton savait par quels moyens le gars s'était procuré son auberge. On n'ignorait pas qu'Avdotia lui avait livré l'argent de son mari. Personne ne l'aimait à cause de son caractère froid et rude. On racontait même, avec indignation, qu'Hakim, étant venu un jour comme pèlerin lui demander l'aumône par la fenêtre, il s'était contenté de répondre « Dieu te la fera !» Mais tout le monde devait convenir que personne n'avait meilleure chance que lui. Son blé venait mieux que celui des voisins, ses abeilles essaimaient davantage, ses poules même pondaient plus souvent, ses bestiaux n'étaient jamais malades et ses chevaux ne boitaient jamais. De longtemps, Avdotia, devenue première couturière d'Elisabeth Prochorovna, ne put entendre prononcer le nom de Naoum. Mais peu à peu, cette aversion alla en diminuant, et l'on prétend même que la nécessité la contraignit un jour de recourir à son ancien amoureux, et qui lui rendit 100 roubles. Ne la jugeons pas trop sévèrement. La pauvreté a maté bien d'autres gens qu'Avdotia, et son brusque changement de fortune avait fort abattu la malheureuse. On ne saurait dire avec quelle rapidité elle avait vieilli et enlaidi. Mais comment finit tout cela ? Demandera le lecteur. Voici comment. Après avoir, pendant une quinzaine d'années, fort bien mené sa barque, Naoum accepta tout à coup une offre avantageuse et vendit son auberge. Il ne s'y serait jamais décidé sans une circonstance en apparence futile. Deux matinées de suite, son chien, assis devant les fenêtres, se mit à pousser de longs hurlements plaintifs. À la seconde fois, Naoum se planta devant le chien, le considéra attentivement, hocha la tête et se rendit sur le champ à la ville où il traita de l'auberge avec une de ses connaissances qui la marchandait depuis longtemps. Et 8 jours plus tard, il cédait la place au nouveau propriétaire et partait pour une province lointaine. Mais le soir même, l'auberge brûla de fond en comble sans qu'il restât vestige, et le successeur de Naoum fut entièrement ruiné. Le lecteur comprendra facilement quels bruits coururent dans le voisinage à propos de cet incendie. « Il a emporté sa chance avec lui, disait-on. On raconte maintenant qu'il fait le commerce de blé et gagne de l'argent gros comme lui. Un bonheur si insolent durera-t-il toujours ? Qui sait ?
Bien d'autres colonnes se sont écroulées et tout crime se paye tôt ou tard. Elisabeth Prochorovna est toujours de ce monde. Et comme il arrive souvent aux personnes de sa trempe, elle n'a guère changé. Elle s'est toutefois quelque peu racornie et son avarice a pris des proportions démesurées. Il est d'ailleurs bien difficile de savoir pour qui, n'ayant pas d'enfant et n'aimant personne, elle garde tout ce qu'elle amasse. Dans la conversation, elle mentionne souvent le nom d'Hakim, dont les belles qualités lui ont fait concevoir, affirme-t-elle, une grande estime pour le paysan russe. Kirillovna s'est rachetée de sa maîtresse par une assez forte somme et s'est mariée par amour avec un jeune blondin, serveur de son métier, qui lui fait souffrir mort et passion. Avdotia habite toujours l'aile des servantes, mais elle est encore descendue de quelques degrés. Elle s'habille pauvrement, presque malproprement. Des manières pimpantes d'une fille élevée dans la capitale et des habitudes d'une riche aubergiste, il n'est pas resté trace. Personne ne la remarque. Elle se tient pour heureuse de ne pas être remarquée. Le vieux Pietrovitch est mort. Quant à Hakim, il chemine toujours. Et Dieu seul peut savoir quand prendra fin sa vie errante. 1852.